Salut les joueuses et salut les joueurs et bienvenue dans votre nouveau numéro de la chronique riche en protéines laitières et en plastique. Je suis Père Castor et toujours accompagné de Flavien pour la chronique des thermofromages.
Bonjour Père Castor et bonjour les auditeurs.
Salut Flavien, tu vas bien ?
Ça va, un peu malade.
Ouais, bon, ça, le climat strasbourgeois n'aidant pas.
C'est ça.
Alors, pour ce quatrième épisode de la chronique, on a arrêté le petit challenge sur Twitter, puisque, on vous rappelle, pour le dernier numéro, on nous avait proposé la lettre Y, mais on ne s'est pas démené.
On a fait l'IAMS,
mais on s'est dit, il y a peut-être encore du challenge dans l'air, donc peut-être que quelqu'un nous aurait proposé la lettre S7 en allemand, donc
on voulait
éviter
ça.
Ouais. Du coup, c'est nous-mêmes qui avons choisi le terme qu'on présentera aujourd'hui, et ce terme, Flavien, ce sera...
Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un deck, et on va donc vous parler du deck building après cette petite blague savamment préparée que n'aurait pas renié Dédé. D'ailleurs, on va donc parler du deck building.
Bah, le deck building, tout à fait. Donc la lettre D pour ce nouvel épisode.
Dédé d'ailleurs, vers lequel qui nous avait fait un jeu de société expliqué à ta grand-mère sur le deck building. On vous renvoie, si jamais vous voulez écouter sa voix suave et chaleureuse.
Donc vous retrouverez la chronique Les Décodés de Dédé Schutz dans les catégories sur le site Proxy Jeux.
Mais nous, on devrait faire sûrement plus long aujourd'hui. Parce que chez nous, c'est toujours plus long que chez Dédé, n'est-ce pas ?
Voilà, et plus c'est long, plus c'est bon. Hein, et plus il y a de montage à faire après.
Alors, le deck building, peut-être déjà... donc, deck building, qui est formé, il me semble, en un seul mot quand on en parle, et qui pourtant se compose de deux mots anglais, donc le deck et le building. Donc, building, eh ben, c'est la construction, hein, rien à voir avec... des jeux de construction, mais le deck, peut-être définir juste le deck,
ouais,
Maxime,
déjà
pour commencer.
Le terme deck, donc c'est le paquet de cartes, hein, donc ça va représenter
la pioche, si on veut.
La pioche, alors qui peut être soit une pioche commune, soit une pioche personnelle, et là on s'oriente plutôt vers la pioche personnelle d'un joueur. En fait, on a essayé de cadrer un petit peu les jeux de deck building parce qu'il y en a toute une ribambelle, il y en a qui sont des filiations de deck building, il y en a qui sont des faux deck building peut-être, ou des cousins du deck building. Donc si on devait partir de l'origine du deck building, par quoi tu démarrais en fait comme,
Alors effectivement, on parlera tout à l'heure d'un débat qui a souvent animé la communauté ludique autour du deck building, c'est est-ce que Magic est ou non un deck building, parce que Magic, alors historiquement les auditeurs nous reprendront et apporteront sûrement des précisions. Mais Magic me paraît être un des premiers jeux où, comme ça, à l'avance, on préparait son paquet de cartes, donc son deck.
C'est vrai que si on veut parler de deck building, avant de parler de Magic, est-ce que il y a la partie préparation effectivement qu'on a dans Magic. Donc en fait, quand tu vas jouer à Magic et que tu vas construire ton deck, tu vas pas le construire pendant ta partie.
Non, donc, c'est vraiment au niveau du vocabulaire, c'est vraiment construire son deck. Hein, on y est vraiment dans Magic. C'est pour ça que souvent on parle de deck building. Enfin, à raison ou à tort, on en parlera plus tard, mais en parlant de Magic, c'est la construction du deck, c'est vraiment au cœur de l'expérience de Magic. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est en amont, c'est avant la partie.
Donc c'est la phase préparatoire qui vient, ouais, bien avant le temps de jeu, avec tous les travers que ça va être lié, parce que tu risques déjà de perdre un temps fou.
C'est extrêmement chronophage, au point qu'on peut se dire, est-ce que finalement le jeu dans Magic, c'est pas la préparation du deck, et que l'application et les essais qu'on fait avec les decks qu'on a construits, reconstruits, revisités après nos parties échouées, etc., est-ce que c'est pas ça le jeu finalement qui prend tellement de temps
C'est ça. Au final, est-ce que la partie ce serait qu'une validation au final en disant voilà, j'ai fait une bonne préparation et terminé quoi.
Et on est tous les deux joueurs de Magic entre guillemets en rémission. Enfin, on a arrêté depuis. Moi, j'ai joué.
Ça va, j'étais pas trop contaminé. En fait, je suis rentré dans le jeu de société par Magic. Donc j'ai commencé en quoi 2003, de 2003 jusqu'à 2007. Mais j'ai pas non plus été un ogre de Magic. J'avais pas forcément beaucoup de potes qui jouaient, donc je jouais seulement avec une seule personne de mon entourage, donc j'avais pas non plus une diversité de joueurs à qui me confronter, et peut-être heureusement, ce qui m'a permis de pas non plus partir dans des achats. Voilà.
Ouais, moi j'ai dû prendre le relais en fait, moi aussi, je dirais pas que c'est mon entrée dans le jeu de société, on joue aussi au Munchkin. C'était au lycée, ça devait être vers 2006, peut-être 2007, ça devait être à l'époque de Mirodin, il me semble.
Ah bah j'ai commencé là aussi, avec l'apparition des cartes équipements.
T'as fini, ça devait être 2006-2007.
Non, Mirodin c'est avant, c'est 2003.
Mirodin. Ouais. Alors j'ai connu
2006,
un peu Mirodin.
Ravnica.
Ravnica, ouais. J'ai fait également, je suis allé jusqu'à Lorwyn. En fait, j'ai joué au lycée pendant les heures de perm, on était 4-5 à y jouer, peut-être 6 à y jouer, alors on faisait souvent comme ça. Alors, mais je suis jamais allé non plus dans... dans des dépenses folles. J'ai acheté beaucoup de boosters, des dépenses folles comme ça, oui, mais pas des, des cartes individuelles. J'ai jamais joué en compétition, que ce soit en...
En draft ou ouais, en draft, ouverture
a,
de paquet.
Voilà, il y a un terme spécifique là-dedans. Mais je suis jamais allé là-dedans non plus. Et je m'amusais, et, Dieu sait, à les ranger, à les trier. La question, c'était comment est-ce que je les trie pour les retrouver facilement, pour les intégrer à mon deck, etc. Et c'était vraiment des
soirées. Est-ce que je les mets dans des classeurs? Est-ce que je les mets sous sleeve?
Est-ce que je les mets par couleur? Est-ce que je les mets plutôt par thématique, par population, mais par race, disons, par espèce? Est-ce que je les mets par type de éphémère avec éphémère, etc. Enfin, c'était des questions que se posent toujours les joueurs de Magic. Et la question était toujours aussi de comment on est comme. Est-ce voilà. que je fais un deck
Est-ce que tu le prépares avec un tableau Excel, par exemple, en
c'est
disant
ça. Non, moi j'étais vraiment plus au feeling. Et puis après, effectivement, c'était empirique. Comme je cherchais pas non plus des résultats de fou, qu'on faisait ça pour s'amuser, et qu'en général je me faisais latter la tronche, j'allais pas jusqu'à là au niveau de la préparation. Mais même comme ça, même sans aller si loin. Ça prenait un temps fou au niveau du rangement, au niveau de quand tu as une nouvelle carte, quand tu arrives une nouvelle édition, comment est-ce que je peux l'intégrer dans un deck existant ou est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je fasse un nouveau deck avec voilà, toutes ces questions-là qui voilà,
dans,
sont...
Dans quel, si tu avais plusieurs decks en parallèle, dans lequel tu allais l'insérer aussi
combien de
aussi,
cartes, est-ce que j'ai besoin de cette carte combien d'exemplaires j'ai besoin de cette carte-là précisément pour que ça tourne. De combien est-ce que je mets 17 ou 18 forêts? Est-ce que je mets... 7 plaines et 8 forêts, ou bien plutôt 8 plaines et 9 forêts. Enfin, des questions très très précises qui sont passionnantes. C'est presque, pour moi, le plus grand plaisir de Magic quand on le joue à haut niveau. C'est
vraiment... Tu trouves une espèce de synergie en fait, dans ton
deck.
Ça,
la synergie, c'est vraiment quelque chose qu'on veut.
De la fluidité, et en fait, tu es sans cesse dans la préparation en train de te poser la question au final, est-ce que ce truc va tourner? Contre quel type de deck il va tourner? Enfin, au final, tu commençais à te poser plus de questions métaphysiques que. Et au final, est-ce que tu prenais du. Enfin, quand tu vois toutes les contraintes que tu devais t'imposer pour créer ton deck, tu avais une balance entre temps de jeu, temps de préparation de temps de jeu, ta balance était extrêmement déficitaire au final. Et quand tu te retrouvais, enfin, moi c'était mon cas, quand je passais des heures à préparer des decks et que j'allais enfin les jouer et que je voyais que ça marchait pas, c'était quand même super frustrant.
Extrêmement frustrant. Ouais. Après, comme dit, le jeu dans Magic, c'est peut-être la préparation de deck, c'est pas la partie en soi. La partie en soi est, comme tu l'as dit, une validation, une affirmation, une expérimentation de ce que tu as mis en place comme synergie et qui permet ensuite de revenir dessus, de la préciser, de la détruire, de faire tout ce que tu veux.
Du coup, on peut dire que c'est un jeu solo au final.
Ouais, on pourrait presque dire ça, ouais. Sachant qu'il faut quand même trouver à un moment ou un autre comment est-ce que tu peux la vérifier, donc trouver un autre joueur, qu'il soit en ligne ou en réel. Tu avais aussi parlé de quelque chose d'assez intéressant qui justement limite peut-être cet effet chronophage, c'était raconter une histoire à travers ton deck.
Bah, disons que bon, les cartes de Magic aussi étaient super bien illustrées, hein, en tout cas pour certaines. Et c'est vrai que tu avais...
Avec des petites citations, il y a une espèce de méta-univers de Magic.
Ouais, c'est ça.
On ne va pas rentrer dans la timeline.
Et du coup, j'essayais d'avoir une harmonie aussi dans le deck. Pas seulement avoir de la puissance à l'état brut, mais faire en sorte de regrouper des cartes par typologie et que ça représente quand même un univers. Bon, l'univers est bien posé par le bloc d'extension de Magic auquel tu joues, mais t'essayais aussi de trouver une harmonie au sein des cartes que tu mettais ensemble. Pour non seulement avoir un effet combo, mais également avoir une cohésion en fait dans les cartes que tu mettais.
Essayer de raconter une histoire par la partie que tu fais. Et alors je pense que à haut niveau finalement on fait plus tellement ça parce que
voilà,
on cherche juste les combos et l'optimisation vraiment pas mathématique mais la synergie. Par contre ouais c'est vrai que moi j'ai fait des fois des decks chats, des decks gobelins, des decks sylvains etc. qui sont clairement sans doute pas optimisés pour des parties en compétitif. Mais qui par contre permettent de dégager effectivement une cohérence thématique qui raconte plus quelque chose finalement que juste ok ça me coûte tant de mana de tel type, ça me coûte 3 blancs et puis ça me rapporte tant et puis ça a cette capacité blablabla.
Ouais, limite des fois tu mettais des cartes qui valaient peut-être pas forcément le coût enfin étaient pas forcément efficaces en termes de coût mais
donc t'avais l'illustration peut-être aussi
mais voilà et tu disais tiens cette carte elle est quand même sympa ou c'est une carte avec un effet pas forcément puissant mais qui peut avoir un effet un peu cocasse ou que t'as envie de tester au sein d'un deck. Et donc bah on a dit hein, que toute cette construction de deck était extrêmement chronophage et je pense qu'au bout d'un moment ça nous a probablement sans doute un petit peu éloigné de ce type de jeu.
Oui, et puis le fait que... Alors, on reviendra sur l'idée d'extension qui est inhérente au deck building aussi. Mais effectivement, le fait que quand une extension arrive, et on voit ça dans Hearthstone également sur mobile, on reparlera rapidement des jeux mobiles plus tard, mais ça remet en cause parfois tout le metagame au point que Magic, finalement, ils ont dit pour jouer, on a le droit à telle, telle, telle extension, enfin telle, telle édition, et on oublie celle-ci. on oublie les précédentes, parce que sinon, au niveau de l'équilibrage, quand les gens créaient, entre guillemets, une édition, c'était trop compliqué de se dire, OK, alors il faut qu'on ait en tête tout ce qui est sorti depuis le début pour que la carte, ça ne casse pas tout non plus. Et il y a eu des ratés, hein, il y a eu des cartes qui ont tout pété. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est le fait qu'il y a une nouvelle édition. Alors moi, je ne l'ai jamais connue parce que je m'en foutais, entre guillemets, de la compète. Mais pour jouer en compète, tout analyser, tout re-rentrer dans le metagame, etc., qui était assez fatigant quoi, pour
les joueurs. Ah oui, là, c'est... Là, si tu commençais à analyser les statistiques, aller sur les sites internet et voir les combos possibles, telle carte, je peux l'inclure dans tel deck, etc. Là, on dépasse le cadre du jeu. Là, on est dans la recherche de performance.
Ce qui est très intéressant, mais qui effectivement prend du temps. Et donc, le jeu de société moderne, contemporain, tout ce qu'on veut depuis Catan, comme on le dit toujours, hein, même si ça existait peut-être avant, en tout cas depuis Catan, Aventurier du Réalité, etc. Et en 2009, arrive un jeu.
Voilà, qui remet au goût du jour, qui revisite le deck building, donc la partie.
L'idée de construction.
Ouais. Voilà. Et ce jeu, bah, c'est bien évidemment la référence du deck building, Dominion, donc sorti
Dominion
en.
Ou Dominion.
Ouais, je ne sais pas si on le prononce, sinon il y a Monsieur Blu qui va encore râler sur ma prononciation. Donc,
il était Dominion qui allait à l'auberge. Je les ai croisés avec mon cheval.
Donc on va dire Dominion.
Domi, appelons-le Domi.
Ouais, Domi. Son petit diminutif amical. Donc un jeu de Donny, alors on va l'appeler. Donc Donald X Vaccarino, qui est sorti en 2008 et qui est disponible en français. Au début c'était chez Philosophia, après il y a eu un petit changement, maintenant c'est chez Istar et Plus.
C'est ça, ils avaient récupéré je ne sais plus quoi. Agricola, peut-être, à l'époque, ils ont fait un espèce d'échange comme ça. Et donc, Dominion, effectivement, qui a eu un spiel, DSRS, si je ne me trompe pas.
Ouais, je crois que c'est dans la catégorie.
Expert, tu penses, à l'époque.
Expert, ouais, donc j'ai. Bon, là, j'ai
les
pas la boîte.
Les auditeurs nous corrigeront. Ouais. Mais ouais, donc Dominion, effectivement, qui marque un vrai pas dans le jeu de société. On a dit les JCC, les jeux de cartes à collectionner, dont Magic est peut-être le représentant le plus emblématique. Hein. Il y a Yu-Gi-Oh, il y a Pokémon, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y avait la construction de decks avant. Il y avait déjà également les jeux de cartes évolutifs comme Netrunner qui étaient sortis par Garfield.
Mais c'était déjà... Enfin, à la base,
c'était un JCC,
ouais, qui est sorti, je crois, 2 ans après Magic, ouais, qui n'a pas forcément marché à l'époque.
D'accord, donc les JCE sont vraiment antérieurs.
Le problème aussi des JCC, c'est que tu achètes ton paquet de cartes Magic, donc ton starter ou tes boosters, et voilà,
tu peux jouer avec
une trentaine d'euros, mais tu... Voilà,
t'as
pas forcément un truc prêt à l'emploi pour jouer,
pas
sauf
un truc
si t'achètes
prêt à aller
un
en compète en tout cas.
Alors que là, avec Dominion, t'as une boîte de base qui est complète, qui te permet de jouer les parties
pour
directement.
30 euros, il me semble, environ 35,
40.
40 euros. Ouais. Et donc Dominion, ouais, donc différent du jeu de cartes à collectionner, parce que justement.
En fait, c'est un petit peu comme si la mécanique de construction, elle avait été revisitée, il en avait tiré l'essence, elle avait été distillée au maximum. Et proposer en fait la partie construction du jeu pendant le jeu.
C'est ça, ouais. C'est vraiment l'idée de synergie, de création de synergie qui est vraiment au cœur de la construction du deck dans Magic. C'est vraiment comment est-ce que je vais faire pour avoir un deck qui fonctionne et qui me fait gagner la partie, qui me permet de terrasser mon adversaire. Dans Dominion, c'est pas ça, c'est pas terrasser l'adversaire, mais peu importe. C'est cette idée de synergie entre cartes. Comment est-ce que je vais faire ? J'ai plusieurs stratégies possibles. Est-ce que je vais comboter ? Est-ce que je vais avoir beaucoup de ressources ? Est-ce que je vais avoir des créatures puissantes ? Est-ce que je vais avoir un deck aggro, donc plein de petites créatures ? Et cette idée-là, il la reprend, Donald, notre ami Donald, et il dit OK, comment est-ce que je peux faire pour que ça prenne plus 25 ans avant la partie, mais que on lance la partie et je vais quand même retrouver cette sensation-là. C'est vraiment la sensation de créer une synergie qui est importante.
Et aussi la simplifier parce que y a que les connaisseurs de Magic qui peuvent créer des decks de Magic, alors qu'un jeu comme Dominion, tu peux le proposer à des
joueurs. Parce qu'il y a
joueurs.
Des règles. Ouais. C'est dans les règles, en fait. C'est une règle de jeu, une règle mécanique, alors que dans Magic, c'était pas une règle, la création. Tu as des règles qui sont dues aux cartes.
Bon, tu avais quand même le cadre qui t'était imposé, hein.
Ouais.
Avec les en fonction
ouais,
des couleurs
encore,
que tu choisissais.
Tu pouvais faire des decks de 250 cartes. Tu avais d'ailleurs des cartes qui te permettaient de gagner si ton deck à X moment avait plus de X cartes. Mais alors que là, tu as vraiment dans les règles comment est-ce que tu vas construire ton deck pendant la partie.
Alors, si on revient sur Dominion et en gros comment ça fonctionne, chaque joueur va démarrer la partie avec un paquet de cartes, 10 cartes qui sont toutes identiques pour chaque joueur.
Tout le monde commence au même niveau, ce qui est complètement différent de Magic.
Et au milieu de la table, on va disposer une espèce de marché, hein, Souvent, on emploie aussi le terme de rivière, mais bon. Là, comme,
moins dans Dominion que dans des deck buildings qu'on suivit, mais ouais, ouais.
Là, c'est plus un marché par, c'est, par en rapport fait, à la quantité des cartes.
Et puis, ça dépend de la disposition des cartes, tout simplement. Dans Dominion, ça semble plus des étals, alors que dans d'autres deck buildings, par exemple Ascension ou Star Realms, c'est une file de cartes, c'est pour ça qu'on l'appelle la rivière.
Et du coup, tu vas, donc dans Dominion, tu vas te retrouver avec 10 paquets de cartes qui contiennent 10 cartes identiques, et tu vas pouvoir les acheter à partir... en jouant les cartes avec lesquelles tu as démarré la partie. Et du coup, chaque joueur va partir dans la construction à sa sauce, en fait. Il va élaborer sa petite recette en disant, tiens, bah, moi, je vais partir sur cette carte-là, je vais l'acheter en 1, 2, 3 exemplaires, etc. Et il va concocter, en fait, son paquet de cartes au fur et à mesure de la partie, avec l'objectif final étant de pouvoir acheter les cartes qui vont lui ramener les points de victoire.
C'est de finir avec le plus de points de victoire, ouais.
Et ces cartes, elles sont un petit peu à l'extérieur, elles font pas partie du marché,
ouais,
des cartes.
Il y a la monnaie, donc les ressources, donc c'est des pièces, hein, de 1, 3 et 5.
Donc tu as les cuivres, les argents et les ors.
C'est ça, et tu as les domaines,
les duchés et les provinces.
Et les provinces qui rapportent respectivement...
3, 5, 8
points de victoire. Ouais, donc c'est intéressant que tu partes sur l'idée de recette. On peut continuer un peu à filer la métaphore culinaire. Si on veut, dans Magic, on avait la recette, enfin le repas qui était la partie. Et avant, on avait tous nos petits ingrédients qu'on avait préparés, c'est-à-dire les différentes cartes, et qu'on assemblait pour faire notre deck. Alors que là, finalement, la préparation se fait en parallèle à la recette, c'est-à-dire on prend les ingrédients, les différents ingrédients en même temps qu'on va pas préparer, c'est-à-dire on va avoir nos oignons qui sont en train de cuire et pendant ce temps je vais préparer ma pâte ou je vais préparer je ne sais quoi, ça dépend de la recette que vous voulez faire, mais il y a donc ce côté parallèle qui n'est pas présent dans Magic.
En fait, il y a la partie étude qui est absente de Dominion. T'es pas obligé de connaître les cartes à l'avance, et tu vas les découvrir parce que bon, dans la boîte il y a plusieurs familles de cartes, il y en a je crois 40 différents, et tu vas en prendre 10 aléatoirement ou alors à l'inspiration. Tu peux dire tiens, j'ai envie de faire une partie en prenant ces cartes. Il y a aussi des sets qui sont proposés dans la règle, avec pour proposer un équilibrage de combos, même si toutes les combinaisons marchent, hein, ça c'est pas le souci. Et donc en fait c'est un peu comme si tu déroulais une recette, ouais, que tu peux
tu dis l'étude a disparu, je dirais plutôt en fait l'étude existe, mais elle se fait pendant la partie en même temps que ce que tu appliques. Elle existe vraiment, l'étude, tu es en train d'étudier. OK, alors, quand on te met la partie devant les yeux, ça peut être d'ailleurs un peu long dans Dominion, l'analyse au début des cartes, mais tu l'as fait l'étude, mais sauf qu'elle est pas aussi précise, aussi pointilleuse, aussi longue, aussi chronophage que dans Magic. C'est vraiment le côté parallèle préparation recette qui se fait en même temps. T'as les ingrédients devant les yeux, paf, ok, lesquels je vais prendre. Alors que dans Dominion, tu disais, ok, alors je vais aller au magasin, je veux faire cette recette-là, quels ingrédients je vais pouvoir acheter. Ensuite, je prends le temps avant de les mettre en œuvre, quoi.
Et t'as un plaisir qui est aussi presque immédiat, en fait, quand tu vas jouer, parce que tu découvres en même temps, j'essaye la recette et je peux voir sur le tour suivant, sur les deux, trois tours suivants, pour voir si elle commence à marcher, si la sauce commence à prendre, et sinon, tu changes tes ingrédients, entre guillemets, et tu repars
soit,
sur une autre.
Soit ça, soit ce sera une partie suivante, mais en tout cas, t'es pas là à faire une partie, à dire, ok, je suis reparti pour 3 heures pour refaire mon deck, et à voir exactement combien de cartes, etc., je vais mettre dedans. Il y a un côté plus opportuniste aussi dans le deck building tel qu'on l'entend aujourd'hui, que dans Magic.
Ce qui est marrant, c'est que, bon, moi, j'ai naturellement glissé vers Dominion, même si je l'ai découvert assez récemment, au final, alors que c'est pas forcément le cas de tous les joueurs de Magic. J'ai discuté avec 2-3 personnes sur Twitter qui, bien qu'étant des anciens joueurs Magic, ont pas forcément accroché
Peut-être que ce qu'ils aimaient, c'était vraiment le temps de préparation, du coup, ou l'affrontement, en fait. Dans ce cas-là, ce que tu retrouves pas dans Dominion, qui est une course au point de victoire, qui est, pas une course, mais où tu essaies d'avoir le plus de points de victoire et qui se rapproche en cela d'un jeu à l'allemande, ce qui n'est vraiment pas Magic. Pour le coup, Magic, c'est plus un jeu à combo, qu'on pourrait rapprocher des jeux de cartes à combo, quoi. Et puis, ce qu'il y a dans Dominion, dans le deck building, c'est que contrairement à Magic, où tu vas devoir t'adapter à ton adversaire, certes, tu vas préparer ton deck en avance, tu vas pas pouvoir le modifier pendant la partie. Par contre, il va falloir que tu t'adaptes à ce qu'a fait ton adversaire, etc. Mais la marge d'adaptation est peut-être moins forte et moins immédiate que dans Dominion, où tu vas t'adapter en permanence à ce que tu as sous les yeux. Et même pendant la partie, effectivement, tu le disais, alors jusqu'à un certain point, il y a un moment où l'équilibre est trop basculé, que tu ne peux plus revoir ta stratégie. Mais ce côté adaptation, opportunisme, c'est « Ah tiens, là, il part vers cette stratégie, moi je vais partir vers celle-ci, je vais pouvoir prendre telle carte.
» En fait, on pourrait presque dire qu'il y a 3 phases de jeu dans une partie de Dominion. Il va y avoir la première phase qui va être la phase de construction pure, où tu vas acquérir
des ressources,
des cartes
qui vont te permettre de jouer, ouais.
Et tu vas, généralement, tu vas te focaliser sur 3 ou 4 cartes qui sont offertes sur les 10 et orienter ta stratégie autour de celle-là. À partir du moment où tu décides que tu en as suffisamment dans ton paquet de cartes, tu vas passer en phase de stabilisation. Tu vas le faire tourner en fait pour profiter des effets de ces cartes et moins faire d'achats. Et tu as la phase finale où là, tu vas plutôt te concentrer sur les achats des cartes qui rapportent des points de victoire.
Et puis, est-ce que je vais aller vers la fin de partie ou bien est-ce que... T'as un espèce de point de rupture, en fait, où il faut se dire, ce que je dépense me rapporte tant, il faut pas que, à partir du moment où ça rapporte plus assez, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu mettes fin à la partie rapidement parce que soit, de toute façon, tu vas perdre et tu perdras encore plus, soit, c'est le moment où tu risques de te faire dépasser par celui qui était derrière toi. Et c'est ce petit point de rupture-là qui est intéressant et qui est pas facile à trouver forcément. Surtout,
Et c'est peut-être ce qui est un petit peu reproché au jeu quand pas mal de monde dit que ça peut être assez froid au final comme jeu, et c'est peut-être cet aspect-là qui...
Ah bah c'est un jeu très mécanique.
Ouais.
Je pense que l'aspect froid, qui revient souvent dans Dominion, c'est par la thématique notamment qui est inexistante, par l'interaction qui est assez indirecte, même si elle existe, on en reparlera peut-être de l'interaction quand on parlera des différents types d'interactions.
Alors dans Dominion, aussi bien que dans Magic, on retrouve l'aspect des combos à créer, sauf que là, bien sûr, on évolue dans un espace qui est limité par rapport aux cartes royaumes qui sont mises à disposition.
Même si parfois, on peut faire des combos inattendus, finalement, on n'y aurait pas pensé en regardant les cartes et on se rend compte à l'usage que, ah tiens, ça fonctionne. Il y a une espèce de synergie qui se met en place entre ces cartes-là, alors que théoriquement, de manière abstraite, en juste regardant les cartes, on n'y avait pas forcément pensé. Et des fois, on trouve des combos originales dans Dominion. Après, c'est peut-être moins poussé, moins perfectionné que dans Magic, où vraiment la phase de construction de deck est là pour chercher les combos qui vont fonctionner. Quoi.
Alors après, il y a aussi une grosse présence du hasard hein, dans Dominion, puisque sur ton paquet de cartes, à chaque tour, tu vas piocher que 5 cartes, et il va falloir que tu te débrouilles pour essayer de trouver une synergie entre les 5 cartes que tu as piochées. Alors des fois, t'as pas pioché la bonne carte au bon moment, ou t'as pas les cartes qui combattent ensemble que tu as récupérées. Donc il y a aussi cette gestion du hasard et des probabilités un petit peu à devoir gérer, puisque... il va falloir déterminer combien d'exemplaires de la même carte je vais acquérir pour faire en sorte qu'elle sorte le plus souvent possible
qu'elle sorte vraiment avec, en même temps que celle-ci, ce qui était vrai aussi dans Magic. Alors avec Magic, la limite de, je crois, 4 cartes de même exemplaire, enfin 4 exemplaires d'une même carte maximum, alors que là ce n'est pas le cas, mais tu cherchais aussi cette
Là tu pourrais très bien acheter les 10 cartes ça serait pas forcément efficace,
ouais. Tu peux aussi chercher cette synergie là et les probabilités, etc. C'est aussi présent effectivement dans Magic.
Voilà, la notion soit de spécialisation de deck sur du multi-exemplaire d'un nombre réduit de cartes, ou au contraire de la diversification peut-être essayer d'acheter plus de la moitié des cartes disponibles au marché en termes de diversité, mais peut-être qu'à un ou deux exemplaires.
Après, il y a effectivement toutes ces synergies-là. Dans Magic, on va vraiment essayer de les mettre en place par rapport à ce qu'on a préparé, alors que là, il y a vraiment quelque chose de différent qui est, on vous propose ça, que vous l'ayez choisi ou que vous l'ayez fait aléatoirement, trouver une synergie entre ces cartes, à vous de la créer, à vous d'expérimenter. Je disais que l'expérimentation est peut-être moins présente que dans Magic. Ce qui est vrai, dans Dominion aussi, il y a de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer différentes synergies, peut-être moins que dans Magic toutefois, mais la synergie, en fait, il y a vraiment quelque chose de profondément différent dans le fait de, on vous propose ça, faites-en quelque chose, plutôt que d'en créer quelque chose qui va fonctionner. C'est vraiment pas la même sensation.
Il y a toute l'adaptation à mettre en place, quoi.
Il y a vraiment combien je vais prendre de cette carte-là, avec laquelle je vais l'associer, combien je vais en prendre, parce que quelle probabilité je vais avoir que ces cartes-là sortent ensemble, etc. Il y a vraiment beaucoup de paramètres avec des règles finalement assez simples. Hein. De base, c'est t'as X actions, t'as une action de base, je crois, dans Dominion, voilà, tu dépenses tant et puis t'acquiers une carte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Et en fonction des cartes que tu vas jouer, certaines te donnent des actions supplémentaires ou te permettent de faire des achats supplémentaires.
Tu voulais parler aussi, t'as parlé de l'histoire dans Magic. Tu voulais parler de cette espèce de feeling de...
Ouais, c'est... Des fois, tu as envie d'essayer des choses, donc tu vas un petit peu à l'inspiration pour dire, tiens, je vais essayer de partir sur ces achats de cartes. Alors, tu vois pas forcément un combo dans l'immédiat, mais tu dis, tiens, c'est comme si tu parcourais un arbre de technologie, au final, dans les jeux de civilisation
ouais.
Par exemple, voilà, et tu dis, tiens, en achetant cette première carte, je vais voir est-ce qu'elle combotte bien avec une deuxième, etc. Alors, tu peux assez facilement te représenter les différents schémas disponibles, puisque tu as les 10 cartes sous les yeux. Mais
J'achète plutôt 6, est-ce que j'en rachète une, est-ce que j'en rachète pas, est-ce que j'essaye ça, même si j'avais l'impression que ça ne me servirait pas à grand-chose. Il y a tout ça. Il y a aussi le côté si jamais ton truc fonctionne pas, bah c'est pas grave, tu refais une partie avec les mêmes cartes et tu vois si ça peut fonctionner. Alors que dans Magic, tu joues quand même entre guillemets pour gagner. Bon, dans Dominion aussi, mais c'est moins frustrant que ok là. Enfin, je veux dire, dans Magic, si tu fais un truc au feeling, tu te fais des montées en compète, ouais, c'est inévitable. Alors que là, tu peux te permettre de l'essayer parce que finalement, la partie va être courte et la partie a une fin. Enfin, je saurais pas vraiment mettre les mots dessus, mais je trouve ça moins sanctionnant, moins frustrant que dans Magic de faire quelque chose où tu te dis, j'essaye, au pire, je perds et je refais une partie, quoi.
Ouais, tout à fait.
On peut revenir peut-être sur différentes dynamiques qu'on peut retrouver dans différents deck building, des choses qu'on va retrouver pas que dans Dominion d'ailleurs.
Alors, tu voulais parler d'une des premières dynamiques qu'on va voir, c'est la meule. Mais alors, on n'a pas forcément la même.
Le terme fromage.
Ouais. On n'a pas forcément la même définition de la meule. Toi, tu voyais ça plutôt comme le fait de faire tourner son propre deck, c'est ça ?
Alors, il me semble que la meule, c'est faire tourner à l'adversaire.
Ouais, en tout cas dans Magic. Hein.
Ouais, c'est ça. Là, c'est plus la meule personnelle. C'est réussir à faire tourner tout son deck, soit pour acquérir plein de ressources parce que tu les accumules, soit pour vraiment trouver la carte qu'il te faut ou les quelques cartes qu'il te faut, quoi.
Donc ça serait plus du parcours de son propre deck, quoi.
C'est ça, tu arrives à les faire tourner parce que tu as les bonnes cartes, par exemple dans Dominion, qui te font tu construis un deck à base de pioche de cartes et d'actions. Donc, tu vas pouvoir piocher et les jouer, et donc ça va retourner dans la défausse. Et j'ai vu des parties, c'est vrai aussi dans Ascension, où un joueur il fait tourner son deck une fois, deux fois, trois fois, ce qui a un côté très, très, très ennuyeux quand tu.
Ouais, ça peut être long des fois.
Pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne de manière générale. Mais quand tu joues face à quelqu'un comme ça, en fait, le fun est complètement absent parce que pendant le tour de l'autre, toi, tu ne fais rien. Et tu regardes l'autre faire tourner tout son deck, faire ses actions, le mélanger, etc. Tu vérifies même plus s'il a. Il y a aussi le côté.
Alors, ça, je ne l'ai pas trop vu dans Dominion.
Ah, moi, j'ai des parties.
Bon, j'ai déjà vu des cas où il y a de la pioche qui s'enchaîne. Mais au final, après, tu es quand même limité par soit un ou deux achats ou une ou deux actions maximum. Ouais. Mais si on prend un autre jeu comme Trains, par exemple, où là, il n'y a aucune limite en termes d'achat ou d'actions que tu peux réaliser, j'ai déjà vu des pioches immenses de cartes et faire du multi-action et du multi-achat.
Moi, je l'ai vu aussi dans Dominion, je me rappelle d'une partie à 4, ça m'a marqué. Donc, le mec, effectivement, faisait vraiment tourner tout son deck. Et en fait, nous, on jouait même plus, on vérifiait même plus s'il était au bon nombre d'actions. En fait, il était là et puis il les posait. Il disait, ah, ça m'en donne plus 3, plus truc, plus machin. Et ça devient compliqué même et dans Ascension, il y a un peu ça aussi, de compter exactement combien d'actions tu as, combien d'achats tu as, combien d'argent tu as, etc. Bon, des fois, il y a un peu.
Ouais, bon, après, de toute façon, généralement, tu fais confiance. Je veux dire.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça casse un peu le rythme du jeu, je trouve, cette dynamique-là qui fonctionne d'un point de vue, de stratégie de jeu. C'est si tu réussis à mettre en place une synergie, etc., tu vas la rechercher. Et ben, pour la rechercher, je vais mettre en place un deck, et ça existe aussi dans Magic, qui va me faire. Fouiller mon deck, enfin c'est pas fouiller dans mon deck puisque tu vas pas aller chercher des cartes spécifiques, c'est aussi une stratégie qui existe, mais je vais faire tourner tout mon deck et puis jusqu'à ce que je trouve le bon truc et puis paf, j'ai marqué plein de points. Ouais. Mais par contre, effectivement, moi je trouve que c'est une dynamique qui casse vraiment le jeu. Peut-être justement, on disait faire tourner tout le deck, ce deck peut être très réduit finalement, peut-être pas au début de la partie, mais tu parlais de la phase de stabilisation et de faire la fin de partie, peut-être le phénomène d'épure progressif de son jeu.
Alors ça va dépendre des cartes qui sont disponibles au royaume. Alors ça dépend des parties, hein, en fonction des configurations des cartes qui ont été tirées.
Royaume dans Dominion. Hein,
ouais. Soit tu as des cartes effectivement qui vont te permettre de dégager les cartes inutiles du début de partie.
Par exemple les cuivres.
Voilà, ou de les valoriser. Si tu as une carte par exemple dans la boîte de Dominion Intrigue qui va te permettre d'augmenter la valeur de tes cuivres. Parce que c'est vrai que ces cartes, elles peuvent vite devenir un petit peu gênantes. Enfin, elles te consomment une place dans la main de 5 cartes.
Dans la main, alors que ça pourrait être un or, 5 d'argent. Alors que...
Ouais, tout à fait. Et c'est un peu le même cas aussi avec les cartes qui représentent des points de victoire.
Ouais, tout à fait.
À ne pas forcément acheter trop tôt dans la partie, parce que, ok, t'as acheté une carte qui vaut 3 points de victoire, mais avant la fin de la partie, elle te sert à rien. Quoi.
Plus tard, tu pourras en acheter certaines qui valent 8. Et effectivement, il existe des cartes qui permettent de ce qu'on dit épurer son deck, c'est ce qui est moins le cas dans Magic, mine de rien, qui existe, mais qui est...
Ouais, t'avais de la mécanique de défaut.
Enfin, ouais.
Ouais, de la défausse.
La défausse, ouais. Effectivement, ouais, dans Dominion ou dans Ascension ou autre, t'as vraiment des trucs. Dans Ascension, on parle de bannissement. C'est tu vires des cartes complètement de ton jeu, tu les vires, tu les mets pas dans ta défausse parce que sinon tu les... Enfin, il y a certaines cartes qui te font les mettre dans la défausse, il y en a d'autres qui te font les écarter du jeu. C'est pour justement, en fait, on parlait de probabilité, avoir plus de probabilité de tomber sur les cartes qui vraiment t'intéressent ou qui vraiment sont intéressantes dans...
Ouais, toujours dans un but d'optimisation, là.
Et de combo. On parle de défausse. Souvent, ce qu'il y a dans les jeux de deck building, c'est qu'on défausse toute sa main à la fin de la partie. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très frustrant. C'est t'as plein de trucs dans ta main. Alors après, c'est aussi à toi de construire ton jeu de manière à ce que tout ce que t'as dans ta main te serve, entre guillemets. Mais souvent, c'est ok, t'as fini ton tour, ben, tout ce que t'as joué, ça dégage, ça va à la défausse. Et il y a très peu de jeux qui finalement disent ok, ben, tu joues ce que tu peux. Qui garderait l'idée de deck building, c'est-à-dire que le deck, ce que tu pioches, tu le construis, mais tu peux conserver en main des trucs pour les jouer à un tour suivant.
Dans
Star Realms, il y a les bases qui restent en jeu, qui ne restent pas dans ta main, mais qui restent en jeu. Il y a assez peu de jeux, finalement, qui ont utilisé ça.
Il me semble qu'il n'y a que Eminent Domain, où tu peux conserver des... Donc c'est aussi un jeu à base de deck building, il n'a pas été traduit, il n'a pas été localisé en français. Et tu peux conserver des cartes d'un tour sur l'autre.
Ça doit exister dans Future Cross Snow aussi, maintenant qu'on en parle, mais...
D'ailleurs, on peut peut-être passer un petit peu en revue les autres jeux qui s'inspirent de la mécanique du deck building, hein, parce que bon, on a parlé du grand ancien Dominion, mais c'est pas, disons que c'est lui qui a guidé la voie aux jeux qui ont suivi derrière. Alors, on a déjà parlé de Trains, donc qui est sorti en 2014, qui est disponible en français chez Philosophia, et bon, c'est un jeu qui est très grandement inspiré, hein, de Dominion. On en a déjà parlé dans Proxy Jeux. Papy Grincheux a aussi fait une petite chronique aussi déjà dessus. La différence par rapport à Dominion, c'est qu'il rajoute le plateau de jeu sur lequel là, bon, il y aura aussi une course au point de victoire.
Il y a des destinations, c'est ça, il me semble. Hein,
ouais, en fait, tu vas essayer de relier des villes et avec un réseau ferré. Donc, tu as des cartes actions qui vont te permettre de poser des rails sur ce plateau. Bien sûr, tu vas rentrer en concurrence avec les autres joueurs si c'est déjà présent. Il va y avoir des coûts supplémentaires si tu veux construire sur des hexagones qui sont déjà occupés. Et là, l'optimisation de main de cartes est un petit peu plus compliquée parce que à chaque action que tu vas réaliser de construction, tu vas ramasser ce qu'on appelle des cartes poubelles, des cartes ferraille qui vont venir polluer ton deck.
Sans avoir d'utilité, alors que dans Dominion, par exemple, il y a ce côté des cartes, les points de victoire ou les cuivres, ils vont pas être utiles pour les points de victoire, mais ou peu utiles pour les cuivres. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est les points de victoire que ça va rapporter, c'est que c'est quand même un d'argent. Alors que là, effectivement, c'est juste des cartes négatives.
On peut les rapprocher des cartes malédiction qu'on a de Dominion qui font des points de victoire négatifs. Bon, les Farai, elles te ramènent, elles viennent juste occuper. Une place en fait dans ton deck de cartes. Bon, il y a des mécaniques pour s'en débarrasser, heureusement, parce que
ouais, tout ce qu'on a dit avant, ouais. Les pures, ouais. Mais ouais, c'est quelque chose qui est très courant, effectivement. Il y a, comment dire, dans Ascension, c'est pareil. Il y a les apprentis, il me semble, hein, les premiers, on essaie aussi de s'en débarrasser rapidement. Là, c'est vraiment des mécaniques de cartes qui t'encombrent volontairement. La Ferrari dont tu parles dans Trains, sachant qu'il y a aussi une version Planes, donc avec des avions, je crois. Il n'a pas été francisé, mais il me semble que ça reprend plus ou moins la mécanique de Trains.
Ouais, les graphismes sont très proches aussi quand on parle des deux boîtes. On a un avion à la place d'un train, mais c'est les mêmes coloris, c'est le même trait graphique.
Après, on a Ascension. Alors, Ascension, on est dans une espèce de course, hein, comme dans Dominion, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de fin de partie, c'est à tel moment, la partie va s'arrêter. Ce qui change, c'est le principe de la rivière, qui est vraiment différent de... Il y a déjà beaucoup moins de cartes de chaque, beaucoup moins d'exemplaires de chaque carte que dans Dominion. Il y a 3, 4, 2, ça dépend des cartes et de leur puissance. Mais elles vont arriver dans une rivière de je ne sais plus combien de cartes. Elles vont venir d'un deck d'une pioche commune au centre de la table. Et au début de la partie, puis au fur et à mesure dans le jeu, on va remplir une rivière de X cartes.
Mais alors là, du coup, tu joues avec une pioche commune cachée. Alors,
je ne sais pas si on peut... Ouais, c'est une pioche, disons, c'est le deck central qui va être les cartes mises en vente pour les joueurs qui vont pouvoir les acquérir avec leur deck.
Mais t'en as pas connaissance, alors que à Dominion ou à Trains, l'ensemble des cartes disponibles sont toutes présentes.
Ah ouais,
y a pas de connaissance préalable à avoir sur le...
Alors tu connais parce que finalement c'est des jeux où tu fais beaucoup de parties, donc tu sais quelles cartes sont dans Ascension. Mais
peut-être pour quelqu'un qui débute, ça sera plus compliqué.
Ce sera plus compliqué, en même temps plus simple, parce que du coup, en fait, t'as beaucoup moins de choix. dans Dominion, peut y avoir ce phénomène au début de la partie de analyse par analyse, où tu regardes et tu commences à analyser les synergies. Dans Ascension, tu vas avoir beaucoup moins ça, sauf si tu connais le jeu et que tu te dis, ok, je vais partir sur cette stratégie.
Ouais, mais tu vas voir que les cartes de la rivière, et si tu dis, tiens, je sais qu'en achetant celle-là qui est visible, peut-être que d'ici 2-3 tours dans la pioche, je vais révéler cette carte et je pourrais faire un combo avec, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais, donc t'as pas toutes les infos.
Non, t'as beaucoup moins d'informations que dans Dominion, c'est beaucoup moins, entre guillemets, c'est pas
prédictif, ouais.
Ouais, et du coup, dans Ascension, ce phénomène de rivière fait que, en fait, c'est beaucoup plus opportuniste aussi. T'as beaucoup moins de cartes d'un certain type. Donc, quand tu envoies une arrivée, ben, tu te dis, ok, bon, il faut pas que je la rate. Est-ce que tu vas avoir assez de ressources pour l'acheter? Pas forcément, parce que il y a aussi l'idée de monstres à combattre. Que là, tu vas les sortir de la rivière et c'est avec une autre ressource que l'argent. Alors que dans Dominion, il semble que t'as vraiment que l'argent comme ressource. Les actions sont pas vraiment une ressource. La pioche non plus. Là, tu as vraiment cette ressource de combat plus la ressource en monnaie. La monnaie va te permettre d'acheter certaines cartes. Le combat va te permettre d'en détruire certaines autres. Sachant qu'à la fin du tour, idem, toutes les cartes que tu n'as pas jouées sont aussi défaussées. Il y a aussi le phénomène qu'il y a moins dans Dominion, qui existe apparemment sur certaines cartes, mais qu'il y a pas mal de cartes qui te rapportent des points de victoire. Donc pour gagner des points de victoire, soit tu détruis des monstres et ça te rapporte des cristaux, soit tu acquiers des cartes et ça va te rapporter des points de victoire en elles-mêmes, quoi.
Mais pareil, ces cartes, elles viennent pas un petit peu polluer ton deck au final ?
Ça dépend lesquelles. Il y en a certaines qui vont rapporter beaucoup de points de victoire, qui vont pas avoir des super effets, qui vont coûter cher. Les sensations en tout cas sont en même temps assez proche parce que tu vas te construire ton deck, mais en même temps assez différente de Dominion du fait de cette rivière, du fait de cet opportunisme, du fait de cet aléatoire, du fait de cette non-connaissance de tout ce qu'il y a. Par contre, la synergie que tu vas créer dans Dominion, dans Ascension et dans Star Realms, dont on parlera peut-être juste après, elle est favorisée par l'idée de famille de cartes qui vont... Mmh. En fait, Dominion est presque plus libre là-dessus, c'est ok, t'as ces cartes-là, à toi de te créer ton truc.
Oui, l'interaction entre les cartes royaumes au final...
Voilà, il n'y a pas de couleur. Ouais. Celle-ci va bien avec celle-ci, etc. Et ce qui est à la fois bien pour le joueur, ça lui laisse de la liberté, à la fois peut-être plus difficile à aborder. Dans Ascension, t'as quand même des couleurs de cartes, des familles de cartes qui vont bien ensemble. Donc même lors d'une première partie, tu pourrais te dire « Ok, je vais prendre les cartes de cette couleur-là, elles semblent aller ensemble. Ça me fait des combos quand je joue des artefacts, des trucs, des bidules. » Un peu comme dans Magic avec les couleurs, si tu veux.
Et donc, tu citais juste avant encore un autre jeu, donc Star Realms. Donc là, on pourrait presque dire, bon, ça exploite aussi la mécanique du deck building, mais peut-être que les joueurs de la rivière, ouais, et les joueurs de Magic, peut-être là, s'y retrouveront beaucoup plus, parce que là, on est dans un vrai jeu d'affrontement.
Le but n'est pas d'avoir le plus de points de victoire, mais d'éliminer l'autre joueur.
Et donc, c'est jouable à deux joueurs, je pense que c'est la meilleure config.
C'est principalement un jeu à deux joueurs. Alors on a des avis différents là-dessus. Moi, je sais que le deck building, que ce soit Ascension, que ce soit Dominion, principalement, c'est les deux auxquels j'ai joué. Je préfère y jouer à deux. À quatre, Dominion, moi, je trouve ça très long avant de voir revenir son tour, surtout si on se retrouve avec des joueurs qui font tout le tour de leur deck 26 fois. Et Ascension, à deux, en fait, t'as la rivière, tu peux te dire, ok, peut-être que ce tour-là, je l'ai pas, mais peut-être que dans le tour suivant, je l'aurai. À quatre, t'as une carte qui arrive au tour juste après toi. Tu peux absolument pas prévoir une stratégie en te disant, celle-ci, je vais l'acheter à mon tour parce que tu auras trois autres joueurs qui seront arrivés avant. Et donc c'est vraiment à ton tour que tu peux commencer à élaborer une stratégie ou à la limite au tour avant toi. Je trouve que c'est vraiment des jeux qui se consomment à deux de manière préférentielle, quoi. Ascension, donc c'est un jeu de Robert Daugherty, de Justin Gary et de John Fiorillo et Brian M. Kibler, et c'est illustré par Eric Sabet avec des illustrations qu'on fait un peu polémiques, édité en français par une boîte d'édition disparue depuis, qui est Marabunta. Il y avait également une extension des héros immortels que je ne conseille pas forcément parce que moi j'avais trouvé qu'elle apportait des chose sans que ce soit super intéressant.
Alors dans Dominion, t'as aussi des cartes que tu peux acheter qui sont des cartes d'attaque. Et le problème, c'est que si tu joues qu'à deux joueurs, est-ce que l'investissement vaut le coup d'acheter des cartes d'attaque pour aller faire défausser le joueur en face ?
Alors que sinon, ça fait défausser tous les autres.
Ouais, c'est ça. Donc tu cibles pas, en fait, les cartes ne ciblent pas un joueur, mais ciblent l'ensemble des autres joueurs. Donc,
Alors attention, moi je dis ça, il faut préciser quand même un truc important, c'est que j'ai joué qu'avec la boîte de Dominion de base, même pas l'intrigue, qui apparemment est beaucoup moins bien pour commencer que l'intrigue. Ce qui explique peut-être mon expérience avec le deck qui tournait complètement, et il y a très peu de cartes d'interaction directe dans la boîte de base.
Ouais, donc moi j'ai fait l'impasse de la boîte de base à cause de ça, parce que les effets sont assez simples sur les cartes, et si t'as déjà un petit peu de bagou sur les jeux, vaut mieux partir sur Dominion l'intrigue, ouais, qui est la deuxième boîte de base avec des effets, disons, un petit peu plus complexes, mais
un peu
sans
plus
non
direct
plus,
aussi, peut-être.
Ouais, tout à fait.
Et donc sur Star Realms, il y a aussi cette histoire de synergie entre familles qui vont ensemble comme dans Ascension. La différence, c'est vraiment l'affrontement en fait qui change vraiment la dynamique. Est-ce que je vais faire un truc très agressif comme dans Magic avec des petits vaisseaux qui vont tout le temps agresser l'adversaire? Est-ce que je vais faire des bases qui vont me permettre d'avoir plus de contrôle, plus de gestion, etc.?
Et dans Star Realms, on retrouve la notion de couleur, hein, puisqu'au final, les différents... Donc Star Realms, c'est un jeu qui va représenter... t'es à la tête d'une flotte, en fait, et le but, c'est d'aller attaquer les points de victoire du joueur d'en face. Et donc, en fait, tu vas pouvoir... Chacun aussi démarre la partie avec les mêmes cartes en main. Donc, tu as des vaisseaux
qui vont te rapporter de l'argent. Ça, c'est quelque chose de constant, ouais, dans à peu près tous les deck building. Alors, on parlera de Fury Across Snow qui est différent. Mais quand même, c'est quelque chose d'assez régulier dans les deck building. C'est tout le monde part très très différent de Magic. C'est tout le monde part avec le même truc de départ.
C'est très égalitaire comme jeu au final.
Et ça, c'est le Magic communiste.
Voilà. Ouais. Donc Star Realms, donc sorti en 2014 chez White Wizard Game. Il a été francisé par Yellow. Sorti en 2016. Il était d'ailleurs nommé à l'As d'Or. Bon, il a pas gagné malheureusement. Non. Mais tu vois, ça c'est un jeu aussi que j'ai découvert sur le tard. Et en plus, on a un rapport qualité-prix, ta boîte de base.
Tout à fait. Qui est jouable à deux.
Ouais, directement. Ouais.
Et du coup, c'est un jeu donc chez Yellow, vous le trouverez. Avec ses extensions, il me semble qu'elles sont sorties en français.
Ouais, les premières extensions. Donc, tu as Crysis qui représente 4 boosters. Je crois qu'il y a 6 ou 8 cartes à l'intérieur. Alors, sachant que c'est des boosters préconstruits, il n'y a pas de notion de collection. Hein, donc, il n'y a pas de tirage aléatoire. Même si on retrouve le même packaging que les boosters Magic. Le contenu est défini à l'intérieur, hein, donc il n'y a pas de notion de rareté des cartes, etc.
C'est un jeu de Robert Nougarty, donc un des auteurs d'Ascension, et de Darwin Castle, et illustré par je ne sais pas qui.
Vito Gesuadi.
D'accord.
Donc on retrouve, on parlait des familles juste avant, où on retrouve un petit peu les mêmes couleurs et des effets qui sont relativement similaires à ce que l'on retrouvait dans Magic. Donc, soit des familles qui sont plutôt orientées sur
gestion,
l'attaque.
Point de vie, reprise de point de
vie,
etc.
Sur de la défense, la récupération, les soins, l'attaque directe et l'attaque de deck.
Sachant qu'on peut, dans Magic, en fait, on va choisir plus ou moins vers quoi on va s'orienter au moment de la création du deck. Là, c'est pendant et on peut mélanger, on peut plus équilibrer entre guillemets les différentes options.
Ouais, sachant que la plupart des cartes combinent avec des cartes de la même couleur.
Ouais, alors comme dans Ascension pour le coup.
Ouais, alors peut-être que dans des futures extensions, tu auras des combos multicolores, donc ça pourrait être intéressant pour orienter ton jeu en faisant du bicolore pour profiter des effets transverses. Mais pour le moment, ce que j'ai vu, c'est qu'au maximum, dans mes parties, j'optais pour deux couleurs max.
Ouais, sinon c'est
difficile.
Parce que
plus tu te disperses après, tu vas profiter de l'effet direct de la carte, mais le fait d'avoir joué une autre carte de la même couleur pendant le même tour de jeu, ben, tu ne vas pas pouvoir déclencher cet effet bonus.
Peut-être revenir un instant sur Dominion, juste pour préciser que ProxyJeux avait fait un dossier il y a quelques années de ça, donc il n'y a pas forcément toutes les dernières extensions, mais c'est toujours intéressant à réécouter, il était assez complet. Au niveau du choix des cartes, alors toi qui, nous je sais qu'on jouait je crois avec la configuration qui était recommandée dans la boîte, parce que j'ai pas non plus fait des dizaines de parties, alors que c'est un jeu comme Raid Force the Galaxy qui se prête vraiment à la répétition, etc. Comment tu fais toi? Est-ce que tu respectes des configurations? Est-ce que tu prends au pif?
Non, tirage aléatoire.
Tirage aléatoire. Ouais. Est-ce que ça marche à chaque fois ou bien il y a des fois certaines cartes qui vont pas être prises du tout parce que voilà, ou il y a certaines cartes qu'il vaut mieux éviter de mettre dans le jeu parce qu'elles vont fumer le jeu ou parce qu'elles sont pas intéressantes?
Ben, au niveau d'une monoboîte en tout cas, j'ai pas vu de. Bon, forcément, des fois il y a des cartes qui n'ont intéressé personne parce qu'elles étaient peut-être un petit peu trop affiliées avec une autre carte disponible dans la boîte et qui n'était pas présente. Tu parlais juste avant des extensions. Au début, on pourrait penser que sur l'aspect pécunier en fait, de ces jeux, on fait une bonne affaire par rapport à Magic. Mais pourtant, si on regarde Dominion, il y a quand même eu une ribambelle d'extensions qui sont sorties. Je crois qu'il y en a 8.
Oui, il y en a un bon paquet. Ouais, à un moment, ils avaient dit « bon, on arrête » et puis finalement, ils ont quand même sorti.
Voilà, ouais, c'est ça. Mais là, c'est la DRDDR est sortie.
Ouais, la DRDDR jusqu'à la prochaine, c'est comme Jonis.
Ouais.
Et du coup, ça match entre extensions ou justement, un peu comme dans Magic, il y a certains moments où ben, non, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des dynamiques trop
différentes. En théorie, tu peux très bien construire ton royaume de 10 cartes à acheter avec un paquet issu de chacune des extensions. Sauf que forcément, quand une extension sort, il y a un nouveau combo qui est mis en place et pour que la carte marche réellement, il faut qu'elle soit associée à au minimum 2 ou 3 cartes qui sont présentes dans cette extension. Donc, ce que recommandait Jérémy à l'époque dans le dossier de Proxy Jeux, c'est de mélanger au maximum deux boîtes ensemble.
D'accord.
Ça sert à rien de prendre une carte de chaque extension parce que tu auras peut-être, si je prends par exemple, il parlait d'extension Alchimie qui propose un nouveau type de ressources, et ben ce type de ressources n'est présente que dans cette boîte. Donc si tu te retrouves avec une carte à acheter qui propose.
Alors que tu n'as que du cuivre et des trucs, ça ne marche pas. Quoi.
Tout à fait.
Toi, je sais pas avec lesquels tu as joué pour l'instant.
Avec 2 millions d'intrigues et avec Abondance.
Abondance,
ouais, qui est une petite,
qui était déjà sortie à l'époque.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Et au niveau du rangement, parce qu'on pourrait se dire aussi pour des questions pratiques, bah finalement, je vais prendre mes différents types de cartes et puis je vais me préparer une grande boîte, comme ça va plus se faire, et puis tous les mettre ensemble. Et du coup, il y a le risque, effectivement, de plus savoir avec quelle extension ça va, même si on peut mettre des post-it, des trucs comme ça. Mais...
Ouais, mais tu as un petit marqueur sur les cartes en bas à droite, un peu à la. Tu as le petit sigle, un peu comme sur les cartes Magic, pour immédiatement reconnaître à partir de quelle boîte elle appartient.
Ouais. Et toi, du coup, tu as gardé les boîtes ou tu as tout rassemblé?
Ouais, bah en fait, elles ont un thermo à intégrer, donc avec des rangements pour chacune des cartes. Alors bon, après, j'avais promis l'année dernière de plus acheter de sleeves pour mes jeux, et quand j'ai commencé
des protège-cartes.
Voilà, ouais. Quand j'ai commencé sur Dominion ou sur Stalrims, au final, c'est les cartes, tu les bats à chaque tour.
Ouais. Hein. Ouais, ça fait partie de ces jeux où ça vaut le coup de prendre des protège-cartes parce que si tu les manipules tout le temps. Quoi.
Ouais, bon, même si tu veux sliver une boîte de base, tu as 500 cartes à sliver, ça peut aussi faire un budget. Donc, moi j'ai pris les sleeves les moins chers parce que si tu te rends compte que ton achat de sleeve correspond à près de 50% du prix de la boîte de base, tu rachètes une boîte quand les cartes sont mortes.
Et ouais, d'accord, donc toi tu utilises quand même des sleeves et. Est-ce que, du coup, pour les prochaines extensions, tu penses continuer à en acheter d'autres ou...
Ben, pour le moment, je me suis limité à 2 millions l'intrigue, Abondance et Adventure, là, que j'ai acheté tout récemment. Je ne l'ai pas encore joué, celle-là. Après, est-ce que je vais me lancer dans l'intégralité des extensions Dominion? Je ne pense pas.
D'accord, ouais, tu vas voir.
Il y a déjà suffisamment de combinaisons possibles avec ces trois boîtes.
D'accord. Ok, donc voilà pour Dominion qui est vraiment le grand ancien. Après, on va passer vraiment beaucoup plus vite sur les suivants. Il y avait juste Few Acre of Snow que moi je voulais citer.
C'est un jeu que t'aimes bien. Hein.
C'est un jeu que j'aime bien, que j'ai pas fait beaucoup de parties malgré tout parce que c'est un gros jeu, mais qui est très bien. C'est un jeu de plateau. Hein. Il y a un plateau qui représente donc le conflit entre les Anglais et les Français à la frontière du Canada avec les États-Unis. Et donc il y a un jeu de plateau, c'est un card driven, c'est-à-dire qu'en jouant certaines cartes, ça va nous permettre de bouger certaines troupes, etc. Donc Few Acre of Snow, c'est un jeu de Martin Wallace, hein, le fameux auteur Martin Wallace, dans un de ses jeux les plus costauds, illustré par Peter Dennis, moi j'aime beaucoup les illustrations, et édité par Tree Frog Games, donc la boîte d'édition de Martin Wallace. Le deck building est vraiment au cœur de tout ça, c'est-à-dire que les cartes qui vont servir au card driven, elles vont être, on va les acheter, etc. Et ça va nous faire un deck.
Et tu vas les acheter grâce aux cartes que tu as déjà?
Je saurais plus dire maintenant. Ça, je saurais plus dire. Mais
est-ce que ça se rapproche pas plus de on va dire, de la mécanique du end building où tu vas construire une main plutôt qu'une pioche que tu vas.
Bah, ce que tu construis, c'est la pioche parce que finalement, tu vas quand même repiocher dedans les mêmes cartes que tu as pu acquérir, que ce soit à l'aide de tes cartes ou non. Mais en tout cas, oui, c'est toujours les mêmes cartes que tu vas repiocher. Il y a l'idée d'épure dans Few Acre of Snow qui est vraiment hyper importante. C'est vraiment essayer de tomber sur les bonnes cartes au bon moment. Il y a aussi l'idée de réserve de cartes. Tu vas pouvoir en réserver certaines que tu vas pouvoir utiliser à un autre moment. C'est-à-dire que tu ne vas pas vouloir les utiliser ce tour-ci, mais tu ne veux pas les garder en main parce que tu veux avoir de la place en main. Tu vas pouvoir les réserver de côté pour pouvoir les reprendre par la suite. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est aussi que les cartes, elles ont différentes utilisations. Elles ont à la fois une unité, un moyen de transport, une destination, et du coup c'est un deck building, enfin une façon de raisonner qui est beaucoup beaucoup plus exigeante que par exemple dans Dominion ou dans Ascension où tu vas jouer
les cartes
faire
sont mono-effet quoi.
Ouais, c'est ça, alors que là tu vas devoir réfléchir à tous ces critères là pour te dire ok, elle m'intéresse, mais à quel moment je vais en avoir besoin, est-ce que je la réserve parce que je veux vraiment, et en plus tu as toute la dynamique de conquête et de jeu de plateau qui se rajoute par-dessus, donc c'est un jeu beaucoup plus long. C'est pas une mécanique unique, c'est vraiment le deck building inséré dans l'ensemble du jeu. C'est pas le jeu au service du deck building. Comme
c'est un petit peu ce que tu retrouves dans Trains au final, parce qu'à certains moments, tu vas te retrouver avec la possibilité de faire un achat intéressant, mais tu as une configuration sur le plateau qui va dire tiens, là, j'ai la possibilité de poser un rail au bon endroit en ayant les ressources suffisantes pour payer la pose de ce rail-là, donc je vais retarder mon achat. Tant pis, je profiterai plus tard de cette carte achetée, mais là j'ai un coup opportuniste à faire au niveau du plateau de jeu. C'est peut-être un point similaire là.
Ouais, bon, alors encore une fois, c'est un jeu beaucoup plus exigeant, beaucoup plus long. Mettez-vous-y si vous avez envie, mais soyez préparé à ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais par contre, donc une sensation assez différente de Dominion, mais une très très bonne utilisation de ce qui fait le deck building et surtout l'épure, l'idée d'avoir un deck assez pur pour pouvoir vraiment au moment opportun avoir ce dont tu as besoin. Il y avait également Big Book of Madness. Alors on en dit un tout petit mot parce que c'était un deck building coopératif que moi j'ai pas trouvé génial. Il y a un effet leader, même si soi-disant comme on connaît pas les cartes, bof. Si, il y en avait un. L'idée était originale, ça n'a pas été tellement réutilisé. Chacun avait son deck, hein, c'était pas un deck building commun, ce qui pourrait être aussi, enfin un deck commun, ce qui pourrait être aussi une idée hein, de construire son deck qui est au centre de la table, que ce soit en compétitif ou en coopératif, mais d'avoir un deck building qui finalement tout le monde va piocher dedans et ce serait assez amusant. Il y a un Imperial Septions.
Du coup, tu aurais des discussions.
Est-ce que je vais le mettre telle mais carte. En même temps, ouais. c'est lui qui a de la piocher, quoi. Ouais. Alors peut-être que lui, dans sa stratégie, ça marche pas. C'est une bonne idée à vie au game designer. Ça pourrait être amusant. Mais donc, l'idée d'un deck building coopératif était bonne après l'exécution. Moi, je sais que je n'ai pas du tout été client, à part les graphismes, hein, qui étaient la thématique qui était assez amusante. Dans l'absolu, je n'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Big Book of Madness, c'est un jeu de Maxime Rambourg, édité chez Yellow, illustré par Nayad. Mais voilà, Arctic Scavengers, qui n'a pas marché du tout, qui était chez Hystaria aussi.
Hystaria, ouais. D'ailleurs, ils n'ont pas localisé les extensions, parce qu'il y a quelques extensions qui sont sorties, ouais.
Ça n'a pas fonctionné.
Deck building dans une ère un peu post-apo.
Le thème était intéressant. Ouais. Et donc, Arctic Scavengers, c'est un jeu de Robert K. Gabbart, illustré assez sympathiquement, je trouve, par Matt Burton, édité chez Rio Grande, et donc localisé par Hystaria chez nous. Il y avait un peu d'interaction, je crois, on pouvait aller sniper dans les decks d'autres joueurs, quelque chose qui existe assez peu finalement aussi, d'interagir avec les decks des autres joueurs. C'est vrai que peut-être un instant sur l'interaction dans le deck building, c'est souvent de l'interaction indirecte. Il y a peu d'interaction directe, même si quelques cartes le permettent.
Les quelques cartes qui permettent de le faire, c'est soit de faire défausser le joueur, du coup quand il va démarrer son tour, il n'aura pas ses 5 cartes en main, mais il en aura moins, ou alors de lui pourrir son deck avec les cartes malédiction par exemple de Dominion.
Et après, en vrac, hein, c'est des jeux que pour le coup, moi, j'ai pas essayé. Je crois que toi non plus. Mais histoire d'en citer, si vous voulez, les auditeurs, en faire un petit retour, dire un peu ce qu'ils ont de spécifique, peut-être. Il y avait Nightfall, que je ne connais pas bien. Rune Wars, qui apparemment apportait vraiment du thème, pour le coup, à des jeux qui en manquent parfois. Vraiment l'impression de vivre une histoire, ce qui est très peu le cas, non. C'est quand même des jeux assez mécaniques. Et pour le coup, Dominion, c'était vraiment ce qui est fort, c'est vraiment une nouvelle mécanique, une vraie nouvelle mécanique dans le jeu de société. C'est tellement rare que faut le noter. Il y a Thunderstone, Barbarossa, avec ses fameuses illustrations.
Ses fameux graphiques, ouais.
Puzzle Strike aussi, que j'ai trouvé dans certaines listes, qui est un outsider intéressant apparemment. Eminent Domain, que tu as cité tout à l'heure. Il y avait aussi les Legendary.
Legendary Encounters, ouais, donc sur la thématique Predator, sur la thématique Alien, Marvel, ouais, bon,
etc.
Tout ce qui est super-héros, ça ne m'intéresse pas des masses, mais j'étais intéressé par le Alien. Bon, c'est des jeux qui n'ont pas été localisés, on les trouve qu'en import, et forcément à des coûts assez élevés.
Puis encore une fois, si vous en avez d'autres qui vous ont marqué et que vous trouvez originaux, justement, pour telle ou telle raison, n'hésitez pas. Donc, est-ce que Magic, finalement, c'est un deck building ? Donc, comme dit, c'est un débat qui existe depuis longtemps, hein. C'est un débat un peu vain, on s'en fout. Dans l'absolu.
Ouais,
mais effectivement, il y a une construction de deck qui est avant la partie, pas pendant la partie. Alors que le deck building, tel qu'on le définit nous, c'est vraiment la construction au cours de la partie d'une manière ou d'une autre.
Je sais qu'aujourd'hui, j'aurais plus la patience de passer des heures à préparer des decks pour Magic.
Je préfère faire des parties d'autres jeux pendant ce temps.
Voilà, ouais, c'est ça. Et peut-être que pour un féru de Magic, il verrait une mécanique qui serait trop pauvre dans un
Dominion
ou beaucoup
trop
peut-être. Limitée.
Moins de profondeur, moins l'aspect compétitif, même si... on peut très bien faire des compétitions de Dominion en mettant à tout le monde les mêmes decks, enfin les mêmes sets de cartes, etc. et voir combien de points est-ce que les personnes mettent. C'est tout à fait faisable, même si ça dépend pas mal des interactions entre joueurs.
Un facteur chance, un facteur interaction
entre joueurs, etc. Ouais. qui serait assez fort. Mais effectivement, il y a des parallèles à faire entre les deux, évidemment. Il y a une filiation. Après, il y a vraiment des spécificités au deck building type Dominion. Il y a le metagame aussi qui est peut-être moins fort dans Dominion que dans Magic, où il faut connaître les différents decks qui sont joués pour pouvoir les contrer, etc. Tu as parlé d'économie déjà, qui est beaucoup moins sale, entre guillemets, que dans Magic, où tu vas chercher la petite carte qui va te permettre le combo.
Ouais, bon là, si tu es vraiment dans l'optimisation pure, dans un but de performance, quoi. Après, si ça reste du plaisir, tu vas pas non plus acheter tes cartes à l'unité ou te ruiner en booster. Après, si on prend Star Realms, juste la boîte de base... qui est un jeu prêt à l'emploi, qui permet de jouer à deux, elle est vendue 13,50€. Bon, la qualité des cartes est pas terrible, hein, donc ouais. C'est sleeve obligatoire hein, si tu veux que le jeu dure un petit peu.
Il y a des sleeves spéciales Starlink.
Ouais, bon, elles coûtent un bras.
C'est ça.
Donc, admettons, voilà, tu rachètes les sleeves spéciales. Forcément, ben, une fois sleevées, les cartes, elles tiennent plus hein, dans la boîte en carton. Donc, ils proposent à l'achat une espèce de kit où tu as une boîte en carton
ouais, moi je l'ai,
avec
je l'ai
les sleeves. Et du coup,
bien,
là,
sûr.
Bien sûr, voilà, tu rajoutes 20 euros au jeu, donc voilà. Donc, tu es à 13,50 plus 20. Donc, si en plus, après, bah, tu rajoutes bon, les petites extensions supplémentaires.
Ouais, ça t'arrive à un jeu de 40 euros, ce qui est quand même nettement moins que quand tu veux vraiment te faire un deck compétitif à Magic dans
ouais,
l'absolu.
Oui, c'est sûr.
Quelques jeux en ligne rapidement. Alors, je connais peu de jeux de deck building vraiment en ligne, des jeux spécifiques, je parle. Juste dans la lignée de Magic, bon, il y a Hearthstone bien sûr qu'on présente plus de Blizzard. Si vous voulez un peu changer d'Hearthstone justement, parce que Hearthstone est quand même, moi j'y avais essayé et j'avais trouvé ça un peu chiant, l'intérêt dans Hearthstone c'est vraiment le méta. Il y a Duelist qui a introduit un plateau dans l'idée de cartes et de deck. On prépare son deck en avance, mais il y a un plateau. Faeria qui est en early access actuellement. Et Shardbound également, qui devrait venir aussi, qui a un plateau où il y a un général et où il y a des lignes de vue, du relief sur le terrain, etc., qui introduit d'autres mécaniques, une profondeur un peu plus importante que dans Hearthstone, qui est décidément bien trop joué par la communauté du Ludic. C'est dommage parce que finalement, il y a. Après, la plupart des gens avec qui j'en parle, c'est le jeu pour se reposer, c'est-à-dire que des gens qui jouent à des choses beaucoup plus profondes dans le jeu de société et qui jouent à Hearthstone, qui est quand même assez pauvre, je trouve, comme jeu.
C'est le jeu de salle d'attente.
C'est ça, c'est le jeu, tu fais ta partie en un quart d'heure. Et peut-être pour continuer dans le numérique, les portages. Alors, on a deux avis différents. C'est bien, moi, je trouve que c'est vraiment un type de jeu qui se prête super bien au portage. Alors, Dominion en avait, ils n'en ont plus. Star Realms en a un, Ascension en a un.
Ouais, qui est gratuit et qui est très intéressant. Bon, moi, j'ai découvert Star Realms avec ce portage sur tablette. Je n'avais pas du tout accroché, en fait, à la base.
Et pour quelle raison tu saurais pourquoi?
Bah non, mais je pense que c'est
la présentation du jeu, le tutoriel, etc.
Non, mais je pense que c'est simplement lié au jeu numérique en fait.
Ouais.
Au final, j'accroche pas tellement au portage. Bon, à la rigueur, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'était Agricola en portage numérique, parce que bon, là, t'as vraiment un portage qui est vraiment sympa et.
Après, il y a peut-être le plaisir de manipuler. Moi, j'ai noté vraiment dans le point négatif des portages, c'est justement c'est à la fois négatif et positif. C'est le mélange des cartes, les poser, etc. Le jeu de cartes a quelque chose de très, très physique.
Après, là, comme tu es dans un jeu d'affrontement direct, c'est quand même plus agréable de jouer contre quelqu'un en vrai.
De voir ton adversaire pleurer.
Voilà, et que contre une IA. Chose que, bon, au final, t'as de l'interaction Agricola, mais t'es pas en train de t'affronter directement. Donc,
ouais,
tu t'en fous de jouer contre une IA ou contre quelqu'un, quoi.
Après, effectivement, les avantages de ce genre de jeu dans les portages, c'est tout ce qui est mise en place, tout ce qui est rangement, tout ce qui est la vitesse des parties et également le mélange de decks, notamment avec des joueurs qui font tout le tour de leur deck. Là, ça accélère vraiment les parties. C'est vraiment assez dynamique, quoi. Donc, effectivement, c'est à voir si Dominion finalement arrive à être reporté un jour. Je sais qu'il y avait un site à l'époque, mais.
Ouais, il y avait même une application non officielle sur
Dominion,
Android.
Andromignon,
je crois.
Andromignon, c'est ça, ouais. Et ouverture, rapidement, sur le deck building, qu'est-ce que ça a apporté après au jeu de société?
Oula. Donc ouais, à partir de cette mécanique de construction, bah, forcément...
De construction de deck, ouais.
Voilà, il n'y a pas que... Bah, dans les jeux de société, il n'y a pas que des cartes, hein, y a d'autres types de matériel, donc bah, on pense forcément au dé.
Voilà,
donc,
ouais,
le... Avec le dice building, donc tu voulais citer comme jeu.
Ouais, Quarriors principalement. Mmh. Il y a d'autres jeux sûrement qu'ils l'ont utilisé, mais Quarriors reste le père entre guillemets du dice building, je pense. Après,
ouais, par extension, je parlerai aussi de Roll for the Galaxy où bon, c'est de manière indirecte que tu achètes les dés puisque c'est en colonisant les différents mondes qui vont te procurer des dés derrière. Donc tu es aussi dans une logique de construction puisque tu vas avoir ces dés à disposition même si il va falloir que tu te les rachètes à chaque tour pour les avoir dans ton gobelet et pouvoir les utiliser.
Là, dans Quarriors, tu vas combattre des monstres, etc. avec les dés que tu as lancés. Et puis finalement, tu vas les dés que tu vas récupérer, tu vas les mettre dans un sac que tu vas retirer. Alors finalement, un dé, c'est 6 cartes. Et quel est l'intérêt à part matériel de faire un dé quand tu peux faire 6 cartes? C'est un intérêt principalement matériel.
Un dé, c'est plus cher.
C'est ça, ouais. Donc Quarriors et le back building qui est apparu, qui n'est pas forcément eu tellement d'émules, mais il y avait notamment Hyperborea à Orléans où là c'est des petits ouvriers que tu prends dans un sac, que tu vas récolter, que les différentes couleurs des ouvriers, et que sais-je, vont te permettre différentes actions.
Alors après, si tu es très sensible au niveau des doigts, tu peux les reconnaître quand tu les...
Ouais,
parce que la peinture n'est pas forcément identique entre les couleurs.
Et donc ça va définir le type d'action que tu peux faire, ou bien la puissance de l'action, etc. Et pareil, les ouvriers, tu vas les récupérer.
C'est les jeux pour les kinesthésiques.
C'est ça. Et enfin, peut-être finir sur un moment, c'était vraiment à la mode, le deck building. Je veux dire, on a eu Ascension, on a eu Starring, on a eu Dominion, on a eu Trains, etc. Depuis quelques années, j'ai l'impression que ça s'est calmé quand même.
Ouais, à part juste plus récemment Starring, c'était il y a deux ans quand même. Mais après, c'était aussi les modes des mécaniques. Hein.
Ouais.
Donc ça se renouvelle.
Je trouve que c'est pas un jeu, alors les auditeurs pourront nous contredire en donnant des exemples, mais j'ai pas l'impression que c'est un jeu, on parlait du Yams la dernière fois, qui a été où le principe de base a été réutilisé en mécanique annexe. Là, il n'y en a pas tant que ça de jeux, je trouve, qui réutilisent la mécanique annexe du deck building dans un jeu où tu vas faire des actions, ou dans un jeu de plus d'ouvriers ou quoi, mais qui va... Il y a Copycat de Friedman Freeze, je crois, qui utilisait un peu parce qu'il avait remercié Dominion Agricola et compagnie, mais je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça non plus.
Après, c'est vrai que bon, la meilleure copie, entre guillemets, reste Trains, on va dire.
Ouais. Voilà pour le deck building, je crois qu'on a fait un peu le tour. On vous invite encore une fois à aller écouter le dossier de Proxy
ouais,
Jeux
si
sur
vous
Dominion.
Hein, si vous lancez dans Dominion, moi je me suis lancé assez récemment au final dans Dominion.
Ça n'a pas tellement vieilli. Hein.
Ouais.
Et puis c'est vraiment, enfin ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie nouvelle mécanique quoi, qui n'avait pas été vue. Quoi.
Et c'est vrai que c'est vraiment différent de tous les autres jeux. Hein. Après c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, j'achète une boîte à 40€, il n'y a que des cartes à l'intérieur... Bon, après l'aspect économique.
Est-ce que j'achète des extensions l'idée d'extension est assez forte dans le deck building aussi. C'est un jeu où le cœur du jeu, c'est la rejouabilité par différentes
variantes. Alors que c'est ton axe de variabilité.
C'est ça. Moi, j'ai du mal des fois avec les jeux effectivement qui vont proposer ça, mais en truc annexe, c'est-à-dire pour apporter de la rejouabilité, on va mettre des cartes et vous allez en choisir une. Je trouve que c'est relativement
ou des bâtiments supplémentaires dans certains jeux. Toi, tu disais que c'était pas de la vraie rejouabilité.
C'est
pour
disons que je trouve que c'est pas. Alors que là, c'est vraiment le cœur de jeu, c'est l'essence du jeu, le fait de la diversité des cartes. Le jeu ne tient que là-dessus, quoi. Et je trouve que après les extensions, c'est évident que ça apporte d'autres synergies, etc. Quoi. Donc, si vous aimez Magic, essayez peut-être Dominion.
Voilà,
ou
si
essayez
Star
Realms.
Ouais, Star Realms.
Bien rester dans Magic si
ça
vous dérange
cher,
pas de passer des heures à préparer vos decks, hein, ce qui est un plaisir sans doute. Mais...
Donc on a fait on a peut-être un petit peu digressé hein, sur.
On est resté sur le deck building.
Voilà, ouais. Et dans ces différentes variantes et ces différentes possibilités et les sensations que ce type de jeu va procurer lorsqu'on joue. Donc n'hésitez pas. Hein,
à nous proposer d'autres jeux, des choses originales, vos préférés. Le troisième va vous étonner.
On vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode des Thermofromages. Et d'ici là, jouez bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour démarrer ?
Je suis prêt. Est-ce que tu veux que je fasse ma blague, que je l'assume complètement pour commencer ?
Et tu qu'après, peux, tu mais pars je, sur... J'avais ma petite phrase d'accroche, donc on va...
Quelle est ta phrase ? Oui, vas-y.